Françoise Lauard, bonjour.
Bonjour.
Comment pourriez-vous définir le cinéma chinois et quelles en sont les caractéristiques ?
Alors c'est une vaste question, parce que dans le cinéma chinois, d'abord vous avez ce qui nous est accessible, qui sont en général des films plus soignés, qui sont des films qui sont présentés au festival, et ça leur est d'ailleurs parfois reproché. Et puis vous avez une production qui ne s'exporte pas. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la manière de voir des films a fort changé. Moi, je suis allée en Chine pour la première fois en 74, et à ce moment-là, il y avait des salles de cinéma assez nombreuses. Et maintenant, le cinéma se consomme plutôt en DVD ou en petits clubs, ou alors récemment dans des multiplexes, mais on n'a plus la salle de cinéma à l'ancienne avec ce que ça véhiculait comme vie sociale autour.
L'histoire du cinéma chinois est très liée à celle du Parti communiste.
Oui, oui et non, je dirais. À partir de 1949, forcément en Chine, en République populaire de Chine, il était impossible de faire quoi que ce soit de visible qui ne passe pas par le contrôle du Parti communiste. Avant 1949, il y a eu à Shanghai, dans les années 30, un mouvement de cinéastes de gauche qui faisait des films, d'ailleurs, certains sont encore visibles de nos jours, et qui étaient des films engagés. La célèbre Tian Qing, la femme de Mao qui a été condamnée au moment de la bande des quatre, était une actrice de ce courant-là. Mais il y avait aussi des films de divertissement, notamment des films d'arts martiaux ou des comédies, etc. Le problème, c'est un peu comme avec les films japonais, c'est que ça se conservait assez mal. Donc on a peu de documents là-dessus. Et si on prend chinois dans le sens non pas d'un pays, mais d'une culture, à ce moment-là, il y a aussi le cinéma de Taïwan qui est très intéressant. Il y a des films à Singapour. Il y a eu le film dont le nom m'échappe à l'instant même, Be With Me, ou un nom comme cela, qui était un très très beau film. Et bien sûr, il y a le cinéma de Hong Kong qui est intermédiaire, puisque la grande époque, en fait, du cinéma de Hong Kong est un petit peu passée maintenant. Mais il y a la grande époque, c'était les années 70-80, ou même un peu avant, avec des films de divertissement qui étaient souvent très bien faits, des films de kung-fu, etc.
Alors, est-ce qu'on pourrait préciser ce que signifie la classification des cinéastes chinois par génération ? Par exemple, on dit que Jia Zhangke fait partie de la sixième génération.
Écoutez, alors moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas ces classifications en génération parce que je trouve que c'est un petit peu artificiel et je trouve que ça cache aussi des trajectoires, des différences personnelles. Ça correspond quelque part à un goût des Chinois de jouer un petit peu sur les symbolismes numériques. On a les trois pour, les cinq anti, la bande des quatre. Ils aiment bien un petit peu classifier comme ça. Moi, personnellement, c'est une manière de parler que je n'emploie pas.
Comment la Chine s'y prend pour lutter contre le cinéma américain ?
Est-ce qu'elle s'y prend ? Est-ce qu'elle lutte contre le cinéma américain ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'aux États-Unis, en Chine, je pense que quand vous leur parlez un petit peu du monde extérieur, je pense qu'il y a trois pays. Il y a la Chine, il y a les États-Unis. Alors si vous allez, le Japon. Et puis si vous voulez être un peu fin, peut-être l'Allemagne, peut-être. Et puis bon, le reste est un peu. Je pense qu'ils ont une fascination, comme ont beaucoup de pays, pour la culture américaine.
Et qu'ils ne chercheraient pas tant que ça à lutter.
Moi, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je n'ai pas vraiment les données. En fait, quand on parle du cinéma, il faut bien penser aussi au phénomène télévision, parce que les gens regardent beaucoup plus la télévision que le cinéma. Et ce qu'ils voient, ce sont des feuilletons. Et là, vous n'avez pas seulement des feuilletons américains, c'est peut-être même pas tellement les feuilletons américains, mais c'est brésilien, australien, des trucs tout de même assez, qui sont parfois assez costauds dans le genre du mauvais feuilleton. Et donc, mais ça, si vous voulez, ça participe d'une même esthétique d'une même vision du monde tout de même.
Parce que finalement, le cinéma, c'est le meilleur soft power jamais inventé. Et les Chinois ont un grand intérêt à ce que leur cinéma soit apprécié du monde entier, parce qu'il y a aussi des enjeux stratégiques derrière tout ça.
Oui, alors c'est une question compliquée. Et il n'y a pas tellement longtemps, il y a une journaliste chinoise qui me demandait comment faire pour promouvoir davantage la littérature chinoise. Et je dirais un petit peu la même chose pour le cinéma. Je pense qu'à partir du moment où ils considèrent que finalement leurs bons réalisateurs, ceux qui ont des prix à Cannes, etc., et qui tiennent forcément un discours un petit peu critique et personnel, individuel, à partir du moment où ils sont présentés comme peu représentatifs et peu appréciés par les Chinois, ça devient assez difficile. Les films grand public chinois qui passent ici, bon, il y a les films de Zhang Yimou, par exemple, qui sont des films qui utilisent beaucoup l'ordinateur, etc. Je pense que ça, je sais pas si ça a tellement de succès finalement. Un film a eu pas mal de succès, c'était Hero, qui était sorti il y a quelques années. Mais le dernier Zhang Yimou, qui était épouvantablement mauvais, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de succès. Le grand film sur Confucius qu'ils ont sorti à grands frais, il n'est pas sorti en Occident. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un langage esthétique et narratif qui n'est pas tellement facile à faire passer. Peut-être même chose pour le cinéma indien, d'ailleurs.
Peut-être plus facile pour le cinéma indien, plus divertissant, oui, en tout cas. Oui. Y a-t-il un cinéma underground en Chine ?
Moi, j'aurais tendance à dire oui. Vous avez des gens, il y a quelques années, il y a déjà un petit temps, des journalistes de la télévision qui ont fait des documentaires très intéressants. Alors, c'est assez compliqué à qualifier, parce que l'underground, en Chine, on en entre, on en sort. Quelqu'un de très connu comme Tia Jiankui, finalement, ses premiers films étaient à la limite de l'underground. Dans tous les cas, Xiaowu, le artisan pickpocket, qui était un film tourné sans autorisation, un petit peu dans les rues, avec un matériel à 10 sous. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, ça lui a été reproché, on pourrait dire, sur sa gauche, un petit peu. Mais il y a des gens qui font des expériences avec des caméras digitales, etc. Et ça circule alors dans ce qu'ils appellent les Shaolong, les lieux qui sont souvent liés à des universités ou à des cercles d'intellectuels, dans une semi-clandestinité, mais tout de même relativement visible. Si on voulait vraiment à toute force les découvrir, on pourrait le faire.
Oui, donc visible en tout cas du gouvernement, pas forcément du public.
Pas du public, non, certainement.
Oui. On a parlé des caméras DV, donc ce sont les nouvelles technologies numériques qui ont permis le développement du documentaire en Chine.
De ce type de documentaire-là, certainement, parce qu'il y avait des documentaires. Alors, vous avez mentionné ce documentaire en 38. Peut-être qu'il faudrait ajouter alors les films qui ont été réalisés par Joris Ivens, qui avait laissé une caméra en Chine et qui a, je me demande même s'il n'a pas participé à ce premier documentaire dont vous parlez. Je n'en suis pas sûre, mais je sais qu'il a tourné à Yéan pendant la période juste avant ou pendant la guerre, je ne sais plus. Donc vous avez un cinéma documentaire aussi très officiel, hein. Moi, je me souviens d'avoir vu des documentaires qui étaient extraordinaires, qui étaient l'Everest. Hein, donc c'était la première équipe chinoise, en fait, qui était en réalité qui était sino-tibétaine, mais qui a conquis l'Everest, et où on les voyait comme ça sur fond rouge, soi-disant à 8800 mètres, entrer au parti communiste avec des drapeaux, etc. Donc vous avez toute une série de documentaires ou des documentaires un petit peu rasoirs sur le fleuve bleu, le fleuve jaune, etc. Alors le documentaire, d'investigation un petit peu, ça, oui, ça effectivement, ce sont les nouvelles techniques, oui.
Parce que ce que vous venez de citer, c'est finalement du cinéma de propagande plus que du cinéma documentaire.
Non, vous avez... Bon, ben, tout était... À l'époque maoïste, tout était dans la propagande. Hein, mais les films de fiction, c'était pure propagande aussi. Non, vous aviez des documentaires, par exemple, sur l'archéologie, ou qui étaient un petit peu comme les trucs très, très rasoirs que personne ne regarde à la télévision. Ça continue, d'ailleurs. Hein, vous avez... qui sont parfois diffusés, on envoie ça à l'étranger, un petit peu comme ça, dans les centres culturels chinois, ça existe. Et des documentaires, des faux documentaires, je dirais, des documentaires de propagande actuels, ça je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se présente, je n'en ai pas vu, oui.
Ça serait intéressant de faire l'expérience. Pour connaître la face cachée de la Chine, il faut aller au cinéma, finalement, quand on est occidental.
Bien sûr, c'est une bonne manière d'apprendre. Je trouve que le cinéma est intéressant parce que, en fait, la frontière entre ce qui est cinéma de fiction et ce qui est cinéma documentaire... si on prend le cinéma comme une fenêtre sur le pays, c'est pas une frontière qui est tellement nette. Et donc il y a bien sûr les films documentaires, mais il y a aussi des films de fiction qui sont extrêmement intéressants sur une sensibilité, sur des aspects. Alors on n'a pas vraiment de révélation, si vous voulez. Ce sont souvent des choses qui sont connues par d'autres sources, mais c'est intéressant de voir les images, bien sûr.
Oui, d'autant plus que le documentaire chinois ne ressemble pas au cinéma documentaire occidental. Et je pense par exemple au dernier film de Jia Zhangke, I Wish I Knew. C'est pas du tout la même manière de travailler.
Alors celui-là, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas encore sorti en Belgique. Il va sortir le 11 mai. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je peux évidemment vous parler des autres films de Jia Zhangke et notamment de 24 City, mais aussi de The World, qui sont des films que je trouve extrêmement intéressants par la puissance de métaphore, je dirais, qu'il met en jeu, particulièrement de World. Je ne sais pas si ça a été traduit en français en France ou si on
dit World.
World. Donc, qui est un film qui en fait se passe dans un parc à thème, qui est une sorte de modèle réduit des monuments du monde entier, et qui est une manière extrêmement intelligente et intéressante d'aborder le problème de la mondialisation et aussi de jouer toujours sur les jeux d'échelle entre microcosme, macrocosme, hein, puisque rien que les bâtiments ont été réduits d'un tiers, donc c'est rien que dans le décor, il y a un jeu d'échelle. Et 24 City est aussi très intéressant parce que là, il joue sur la fiction et le documentaire, puisqu'il y a si mes souvenirs sont bons, c'est un film qui tourne autour de la fermeture d'une usine, donc qui est quelque chose qui se produit beaucoup en Chine, donc qui implique des changements de vie profonds pour les personnes. Et il y a des entretiens, mais dans certains cas, ce sont des acteurs qui et dans d'autres, ce ne l'est pas. Ils ne le précisent pas, ce qui est, à mon avis, ce qui est limite. C'est assez compliqué. Moi, il me semble que j'ai repéré les actrices, parce que c'était surtout des actrices. Mais il y a certains moments où au début, j'ai vraiment eu un doute. Et c'est quelqu'un qui aime expérimenter sur la forme, hein.
Puis il y a ce magnifique still life. Oui. Alors finalement, le documentaire, c'est pour les Chinois la seule manière d'explorer leur histoire récente et de faire à la fois œuvre de cinéaste, d'historien et de sociologue. C'est le cas de Jia Zhangke, mais c'est aussi le cas de Wang Bing.
Oui, alors Wang Bing, ça c'est vraiment un exemple tout à fait intéressant parce que il a travaillé en fait sur son plus grand film, mais il en a fait d'autres, traite de la fermeture en fait de non plus d'une usine, mais d'une ville industrielle dans le nord-est du pays, avec tout ce que ça implique. Alors là je dirais qu'il y a un effet de réel qui est sidérant, hein. Pas tellement encore une fois dans le phénomène qui est connu, mais Les moments, par exemple, où les ouvriers discutent dans les bains, parce que comme on est en Mandchourie, il fait très froid, donc ils prennent des bains chauds un peu à la japonaise, et puis ils se baladent tout nus dans les couloirs de ces usines complètement rouillées, qui sont fermées, on ne sait pas très bien, ils ne savent pas très bien ce qui va leur arriver. Ça, ce sont des moments inoubliables. Le moment où ils entrent dans un bureau et les canalisations, c'est en plein hiver, les canalisations ont gelé, vous avez une mer de glace jusqu'à mi-hauteur et il faut piocher dans la glace pour récupérer le mobilier. C'est des choses qui sont extraordinaires.
On ne l'aurait même pas inventé pour faire un film de fiction.
Inventé, on aurait dit, ils exagèrent, oui.
C'est vrai que c'est une manière de faire un travail de mémoire. Quelle marge de manœuvre les documentaristes chinois ont en regard de la censure ?
Moi, je dirais que c'est au coup par coup. C'est un jeu assez... Mais je voudrais peut-être revenir aussi un petit peu sur la question précédente, parce que bon, vous avez les documentaristes, mais vous avez aussi les écrivains, les journalistes. Donc je pense que ça s'inscrit dans un courant plus large de gens qui jouent avec la censure, un peu comme un torero joue avec le taureau, si vous voulez. Donc ce qu'ils essayent de faire, en général, c'est qu'ils avancent le plus loin possible. Ils essayent de ne pas s'auto-censurer, et parfois ça passe. Et ce qu'il faut signaler, ça c'est tout de même un point en Chine, c'est que l'appareil du pouvoir n'est pas toujours idiot. Même parmi les censeurs, je pense qu'il y a des... C'est plus complexe que ça. À l'intérieur du parti, c'est plus complexe que ça. Et je pense qu'il y a une fraction de l'appareil dirigeant, même qu'on aurait tendance à dire répressif, est finalement, je pense, un petit peu pas complètement convaincu du bien fondé de ce qu'on leur fait faire.
Parce que finalement, un cinéaste comme Cao Liang, c'est étonnant qu'il puisse montrer et diffuser son film « Pétition, la cour des plaignants ». Et moi, je me demandais si ce film avait été montré en Chine.
Je ne pense pas. Je pense que l'autre a été montré, « Crime et châtiment », a été montré en Chine. Je ne peux pas vous donner une réponse précise sur la question. Je peux vous parler du contenu du film et ce en quoi moi il m'a intéressé, mais je sais que en fait il a fait deux films en tandem. Il a fait Pétition, qui est un film qu'il a tourné pendant pratiquement 10 ans, et pendant ce temps-là, il a fait un film plus bref sur un commissariat du nord, de près de la frontière coréenne, qui à mon sens est au moins aussi subversif que l'autre. Et qui, lui, a été apparemment beaucoup plus facilement accepté. Là aussi, je me suis demandé, mais comment il a fait pour se fondre avec ces jeunes policiers, soldats.
Ça veut dire que ça reste une énigme quand même un petit peu pour nous. Est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui un chef de file du documentaire chinois? Parce que nous, vu de France, on dirait Jia Zhangke, peut-être, mais probablement pas vu du côté chinois.
Je ne suis pas sûre que Jia Zhangke se définisse comme un documentariste. Là, vous me posez un petit peu... Moi, je n'ai pas une vision globale du panorama. Je ne vois que ce qui arrive ici. Je ne sais pas si les Chinois souhaitent avoir un chef de file. Ils en ont déjà eu tellement...
Ils aiment bien les chefs, en tout cas.
Oui, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pas facile. C'est aussi un milieu dans lequel il doit y avoir des rivalités, il doit y avoir des personnalités assez fortes. Moi, personnellement, je dirais que quelqu'un que je trouve très fort, c'est Wang Ping et Zhao Liang. Pour moi, c'est vraiment les deux que je trouve formidables. J'ai vu d'autres documentaires qui étaient moins... profondément stratégique, si vous voulez. J'ai oublié, enfin, c'était comme ça dans la foulée, mais ce sont ceux-là qui restent, il me semble.
Alors, on va rester sur ces deux noms que vous allez me reprononcer à la chinoise, parce que moi, je le prononce beaucoup moins bien.
Wang Ping et Zhao Liang.
Françoise Lauert, merci.